Salut Juliette.
Bon, je vous préviens, je suis un peu chiffon d'être là.
Bah, chiffon, c'est quoi? C'est un idiome de Saint-Étienne pour dire que t'as la gueule de bois?
Une fois pour toutes, oui. Alex, je ne bois pas.
Oui, bien sûr.
D'accord, et la marmotte.
Oui, chacun sa vie.
Non, mais on te juge pas.
T'inquiète, quoi.
Chiffon, en l'occurrence, ça veut dire que je suis perplexe. Perplexe, voire emmerdé. Ah,
mais t'as mal à la tête et au ventre.
c'est la base, hein, il faut pas faire de mélange.
Mais oui, on l'a dit.
Attention, attention, je vais crier.
Non, ça va.
Eh ben, je vais chanter.
Non, vas-y, crie, on préfère.
Voilà. Oh, je suis perplexe que le jour où dans l'émission on reçoit Manu Dibongo, eh ben Charline, elle préfère aller voir Marine Le Pen chez France 2.
Ah non, mais il n'y a pas de rapport, hein, c'est un hasard.
Bah oui, peut-être et peut-être pas.
Mais n'importe quoi, les gars, c'est de Charline dont on cause.
Non, mais moi je dis juste que ça fait désordre.
Oui.
Surtout que Charline est belge.
Mais alors quoi?
Bah, c'est facile, qui dit Charline dit Belgique, dit Belgique dit colonisation, qui dit colonisation dit racisme, CQFD, boum. Merci, bisous, merci.
Non, attends. Déjà, Manu Dibongo, il est camerounais, il est pas zaïrois.
Alors, je l'ai déjà vu habillé avec des couleurs discutables.
Non, et puis l'entraîneur des Lions Indomptables, il est belge. Bien la preuve que nous, la Belgique et l'Afrique, on est au top.
Enfin bon, ça va. Cameroun, Congo, Zaïr, c'est kiff-kiff.
Oh là là, c'est gênant.
Mais enfin, faites pas les couillons, vous voyez ce que je veux dire? Non, évidemment, enfin, que je suis pas raciste.
Ah ouais, quand?
Bah, pas plus tard que ce matin, j'ai mangé un mafé.
Juliette, mais tu t'enfonces tellement.
Mais non! J'ai emmené mon neveu voir Maître Gims en concert.
Ah, c'est gênant.
Te casse pas, va.
Mais puisque je vous dis que je suis tellement ouverte comme personne, c'est même trop. Les gens, ils disent que je suis comme une porte ouverte. Si, je suis une porte ouverte.
Moi, je vais faire comme Charline, je vais aller m'isoler et trouver des sujets qui ont du sens.
Moi aussi, j'y vais.
Ok, parfait. Je chante.
Bonjour la France Inter, bonjour la francophonie Inter. Vous écoutez l'émission qui peut très bien se passer de son chef. Et voici les trois informations qui vont organiser la mutinerie jusque 18h. Aulnay-sous-Bois les jours d'après, alors que le jeune Théo se remet et qu'il a forcé l'admiration de la France entière par ses paroles apaisantes. De leur côté, les forces de l'ordre n'ont pas gagné en popularité.
Le gendarme c'est l'ordre et l'ordre c'est toujours impopulaire, garde à vous.
Amazon veut lancer le supermarché sans caissière et la question se pose, va-t-on vers des commerces déshumanisés et est-ce si grave s'il n'y a pas de vendeuse pour vous conseiller à la sortie des cabines d'essayage?
Très joli, ouais. C'est bien le noir pour vous, hein. Ça affine. Faudrait presque du noir plus foncé.
On a un invité qui était sur place à Libreville pour la finale de la Cannes. Le Cameroun l'a emporté avec à sa tête Hugo Broos, un Belge. Oui, un Belge a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Et les Belges, on est à l'aise dans le recrutement des joueurs africains.
Tu t'appelles comment?
On est Yaya.
Et quel âge?
19 ans.
Ah ouais, 19 ans plus TBA, hein.
Et j'ai la chance d'être accompagné par celle qui fera donc le Alex du jour. Ça me fait bizarre, même si capillairement, il y a un vrai point commun. Bonjour Juliette Arnaud.
Bonjour Alex. Alors, en l'honneur de la victoire des Lions Indomptables, j'ai formé un genre d'équipe de foot. Alors, en 1 à 17h20, enfin 17h20, je me comprends, André Manoukian. Dans les cages, bien évidemment. Il va tellement saouler les attaquants de l'équipe adverse qu'ils inventeront un nouveau type de suicide. Hein. Tu t'enlèves ta chaussure de foot et tu te pètes la horte un coup de crampon. André, de quoi on parle?
Bonjour Julien.
Bonjour.
Bonjour Alex.
Bonjour, vous êtes apaisant André.
On va parler de la fascination des Afro-Américains, des musiciens Afro-Américains pour les musiciens africains, des différentes tentatives qu'il y a eu et évidemment en honneur de notre invité qui a fait peut-être une tentative la plus réussie de fusion à son insu, à l'insu de son plein gré. Alors, je suis clair ou je suis pas clair?
Le Temesta, il faut arrêter.
Allez, en deux.
Mais c'est parce qu'elle est tellement excitée que du coup, j'essaye de.
Ça
s'appelle le contrepoint.
Alors, en deux, on aura Guillaume Meurice. Alors, c'est encore plus évident que pour André. Meumeu sera chef des supporters. Officiellement, c'est la seule personne au monde en situation de donner des leçons de mauvaise foi aux ultras de Marseille. Guillaume.
Bonjour Juliette. Bonjour Alex. Bonjour à tous. Ben, moi, je vais vous parler de l'affaire Théo aujourd'hui. J'ai parlé des policiers avec la population française.
Ils sont peut-être pas assez formés, c'est peut-être aussi...
Ils sont pas assez formés en proctologie.
Je sais pas.
Non, on sait pas, j'ai mené l'enquête.
Voilà, et pour fermer le banc, Clara Dupont-Mono, bon ben sur le banc de touche, n'y voyez aucune offense Clara, c'est tout l'inverse. Tout l'inverse, votre présence, même assise, faite d'autorité et de calme, concourra foncièrement à la victoire et plus prosaïquement, grâce à votre éminent sens de la dignité, je ne crains aucune image de vous en train de vous curer le nez. Clara.
Bonsoir Juliette.
Ah, on se fait l'image du coup de Clara qui est sur le nez, c'est marrant.
C'est marrant moi aussi.
Ouais. De quoi on parle?
On va parler d'un cow-boy à double visage.
Wow.
suspense. Merci à tous. Et pour présider cette joyeuse assemblée, il nous fallait une personne de qualité, car Charline a préféré les papoter avec Marine Le Pen. On a fait de la contre-programmation. Vous êtes né à Douala, au Cameroun. Vous débarquez en France à 15 ans. Vous devenez le saxophoniste le plus célèbre de l'Hexagone. Vous accompagnez entre autres Nino Ferrer et Serge Gainsbourg, avant un énorme succès en 72 avec Saul Makossa. Vous êtes
Manu Dibango.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Je vous le dis comme c'est, Charline est très triste de ne pas être là. Et nous, on est ravis, Manu Dibango. Alors, je vais annoncer vos concerts, parce que c'est ça l'actualité la plus proche. Vous êtes à Sérignan le 25 février, le 26 à Castres, le 3 à M, et le 13 mars à Addis Abeba. C'est la première fois de ma vie que j'annonce une date de spectacle en Éthiopie.
Ah, faut voyager.
je vous demande pardon. Et évidemment, le coffret Merci Thank You volume 1, 80 titres, titres des années 60 à 80. Mmh. Alors, je vous ai dit, bon, vous n'avez pas d'actu particulièrement, de quoi on parle ? On va parler de la vie.
Tout simplement.
Oui, c'est bien la vie.
Oui, c'est une belle actualité.
Hein. Ouais, c'est une actualité de tous les jours. Comment ça va, Manu Dibango ?
Oh, il y a pire. Hein. André, tout à l'heure, a parlé du tube, là, enfin, de Saul Makossa, la rencontre, en fait, ambiguë. Ce genre de rencontre est forcément ambiguë. Et puis, c'est souvent à l'insu de son plein gré qu'on fait un tube.
C'est-à-dire,
hein, c'est pas vous qui faites le tube, c'est le public qui fait le public.
Donc quand vous écrivez celle-là, vous vous dites
ben, pas plus qu'une autre.
Voilà, c'est ça.
Il est musicien, il le sait.
C'est ça qui est fou.
Il n'a pas fait le tube, André. Ouais, c'est pour ça qu'il
est... Si j'en ai fait mon gars.
Non, mais c'est vrai.
J'en ai fait une. Voilà. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que. En général, on les écrit en 5 minutes et on se rend pas compte et c'est après que voilà. Mais tous les créateurs que j'ai interviewés, parce que j'ai une émission sur France 3 qui est assez sympa, ça s'appelle La vie secrète des chansons. Mmh. En fait, personne ne sait. Et tous les artistes, surtout, se gourent. Et c'est très souvent, oh, cette chanson, elle marchera jamais. Et c'est celle-ci qui fonctionne.
Heureusement,
qui fonctionne. C'est
heureusement
ça qui est
si on le savait, c'est pas marrant.
Et là, vous composez toujours, vous écrivez toujours, vous cherchez toujours des nouvelles.
Ben, on cherche, oui, parce qu'en fait, qu'est-ce que tu veux? On peut pas toujours aller à la pêche. Encore que les idées peuvent arriver à la pêche. Non, on est des capteurs. Ouais. Alors, tu sais pas à quel moment le truc va tomber sur toi, en fait.
Mais vous avez un âge de retraité, mais... Manu Dibango, là, vous pouvez aller à la pêche si
qu'est-ce
vous voulez.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est impossible. Un musicien, c'est impossible.
Tant que les doigts marchent, que vous cherchez toujours. Vous savez, l'avantage de ce métier, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages, c'est qu'on est libre de chercher ou de pas chercher.
Moi, quand je suis belge, et donc à Bruxelles, il y a beaucoup de festivals de jazz
en
Belgique.
Oui, mais nul n'est parfait.
Eh ben, c'est vrai, ça arrive. Vous avez vécu chez moi, vous parlez bruxellois.
J'ai commencé même le métier en Belgique.
Voilà, c'est un bruxellaire, Manu Dibango. Oui. Et vous étiez souvent programmé dans des festivals de jazz. C'est un jazzman, alors, plus qu'autre chose, Manu Dibango.
Évidemment que c'est un jazzman aussi, mais dans le sens où le jazz est la musique de l'improvisation. Mais c'est surtout, je dirais que, vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit « ne cours pas après la mode », vous savez, comme le hamster qui court dans une roue, vous n'avez pas bougé et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est la mode qui vous rattrape. Non seulement les Américains sont fascinés par la musique africaine, mais l'afrobeat est devenu une musique de légende dans les années 70-80 et finalement vous êtes le premier qui a joué cette musique-là, qu'on le veuille ou non.
Mais, c'est-à-dire, tout dépend de ce qu'on appelle jazz, en fait. Moi, je crois que c'est plutôt une attitude qu'en fait, jouer comme Armstrong jouait, encore que c'est la liberté. Une liberté, certainement, contrôlée quelque part, mais la vraie liberté, elle est contrôlée, d'ailleurs. On peut discuter longtemps avec ça.
Vous pourriez faire un dictateur africain ?
Je sais pas. Vous savez ce qu'on appelle dictateur ? Là aussi, on peut parler, hein. Ça dépend
quatrième
pour qui
sujet.
On est dictateur. On est dictateur pour certains et pas dictateur pour d'autres.
C'est le relativisme de la tyrannie.
Moi, je suis dictateur avec mes gosses.
Ou la sagesse africaine. Manu Dibango est avec nous et on va s'écouter la fille de quelqu'un que vous avez accompagné, Charlotte Gainsbourg et Beck, Heaven Can Wait, Guillaume, Clara, Juliette et André. On se retrouve après ça.
She's sliding, she's sliding.
Ça finit carré, c'était Beck avec... Ah oui, il y avait Charlotte Gainsbourg qui était là. Heaven Can Wait.
On c'est à mon dernier appel. C'est elle.
Bah, Ludy Bongo, c'est vous la mauvaise langue autour de cette
table. Non, bah, c'est le fond de mon oreille. Quoi.
Oui, c'était de bosser avec Serge.
Non, bosser pas exactement, mais buffer, oui, non, oui, on se connaissait bien quand même, il faut dire qu'il connaissait beaucoup de monde, dont moi en fait. Saint-Germain, à cette époque-là, il était pianiste aussi, on oublie quand même qu'il était d'abord pianiste dans les bars et tout ça, et comme on fréquentait tous les bars et tout ça... Les frères Jacques et tout ça, la Rose Rouge, en fait, tu vois, cette époque-là. Bon,
vous aviez
que les moins de 20 ans, etc.
Il n'y en a pas à cette table.
Et l'information, c'est l'heure d'action. Il est presque 17h17, là, du coup.
Oui, c'est maintenant.
C'est l'heure de l'information, évidemment.
Qui me rendra mon honneur ?
Ça vous prend. Ça y est, c'est décidément.
Une question de vie ou de mort.
Le journal de presque 17h17.
Évangélisme.
Et on commence par les titres.
Oui, l'info du jour, l'info majeure de ce jeudi, c'est que ça fait maintenant plus de 24 heures qu'on n'a pas eu une nouvelle révélation accablante au sujet de François Fillon.
Mais très mauvais signe pour demain.
Effectivement, deuxième info, l'an dernier, les exportations françaises de vins et spiritueux ont atteint un niveau historique.
Oui, en même temps, Gérard Depardieu ne vit plus en France. Forcément, ça dope les exportations.
Effectivement, et vous avez des brèves, Alex.
Mais oui, parce que vous, Guillaume, vous êtes capable d'apprécier une bonne brève, ce qui n'est pas le cas de Charlie.
Évidemment. Et on commence avec la politique. 12 députés de gauche ont saisi le déontologue de l'Assemblée nationale au sujet du cas de la société de conseil que dirige François Fillon.
Un déontologue, je savais même pas que ça existait.
Non, moi non plus. En plus, là, c'est un déontologue de l'Assemblée. Pour le coup, ça aussi, c'est un bel emploi fictif.
Un emploi fictif de plus. Politique toujours. Ce soir sur France 2, David Pujadas et Léa Salamé recevront Marine Le Pen dans l'émission politique.
Oui, et pendant ce temps, France 3 a décidé de troller en diffusant un film dont le titre est « Et si on vivait tous ensemble ?»
Je me demande si c'est pas fait exprès. En tout cas, c'est bien trouvé. Oui. Et venons-en à ce départ de feu qui a entraîné une explosion à la centrale nucléaire de Flamanville. Mais pas d'inquiétude. EDF et la préfecture ont écarté tout risque nucléaire.
Ah, donc on fait rien en fait.
Non.
Voilà. Ok, cool. Ok. Non mais dommage. Je dis ça parce que si Roselyne Bachelot avait été aux affaires, on aurait déjà commandé 94 millions de capsules d'iode.
Évidemment. Affaire Théo, l'inspection générale de la police nationale qualifie le geste du policier de non intentionnel.
Ça c'est une blague de Nicolas Canteloup, non ?
Non.
D'accord. Ok, très bien. Je pensais que c'était une blagounette.
Allez, économie.
L'an dernier, les exportations françaises de vins et spiritueux ont atteint donc un niveau historique.
Oui, les Français sont très forts pour exporter deux produits, l'alcool et les armes.
Oui, il faut juste espérer qu'on ne vende pas aux mêmes personnes. Hein, évidemment, les deux produits.
Sans transition, terrorisme.
Oui, l'assaillant du Louvre nie de façon catégorique avoir voulu commettre un attentat meurtrier, mais assure avoir voulu taguer des œuvres d'art.
Ouais, je pense qu'on tient le nouveau Jawad.
Oui, le Banksy du djihad, on pourrait dire.
En tout cas, on prend bonne note, l'État islamique a donc ouvert une section street art.
Oui, voilà. Moi je dis, si le mec est capable de taguer avec deux machettes, il mérite d'être exposé au Louvre. c'est un putain d'artiste, hein, le mec.
People.
People. Amal Clooney, la femme de George Clooney, attend des jumeaux.
Oui, des jumeaux, c'est marrant.
Pourquoi ?
Bah, les deux, ils vont avoir quelqu'un qui leur ressemble et ils vont s'appeler Clooney.
C'est excellent. C'est excellent, Alex. Excellent.
Bah ouais, je suis assez content.
Non, voilà. C'est formidable ce que vous faites.
Éducation. Les frais d'inscription aux écoles d'avocats pourraient augmenter de 87%.
87%, c'est énorme.
Oui,
hein.
C'est énorme.
Attendez, tous les élèves avocats n'ont pas la chance d'être le fils de François Fillon.
Santé.
Oui, la pilule contraceptive faite aujourd'hui, c'est 50 ans.
Bah voilà, elle peut arrêter. Elle va être ménopausée.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est excellent, Alex. Excellent. Télévision à présent.
TF1, Jean-Pierre Pernaut pourrait être remplacé.
Ah, Alain Juppé aurait déjà refusé d'être le plan B.
C'est pas faux. Une petite brève.
Allez, allez-y, ça vous fait plaisir, Alex.
Je peux. Marseille, il brandit sa tronçonneuse pour forcer le barman à le servir.
Ouais, sûrement un mec, radicalisé qui revient de Syrie.
Exactement.
Syrie. Syrie, c'est le, parce qu'on découpe le bois. Et là, il y avait la tronçonneuse.
Voilà. Il y avait un petit jeu de mots.
C'est une blague, en fait.
Voilà. Après cette information de qualité, nous allons passer au sujet avec vous, Manu Dibango, avant de partir dans cette tournée, je vais dire mondiale, mais c'est surtout France-Éthiopie. dans les autres pays.
Essentiellement basé sur deux pays.
Et bah oui, mais vous êtes en never-ending tour, comme on appelle ça chez les musiciens. Premier sujet, toute la France parle d'Aulnay-sous-Bois. Toute la France a été impressionnée par Théo. Depuis son lit d'hôpital, il a appelé au calme. Et toute la France se demande quelle tournure l'affaire va prendre en justice. Mais la question que cela pose, c'est celle de comment rapprocher les jeunes de la police. Bah, peut-être comme ça.
Secours, j'écoute.
Bonjour, je crois qu'il y a un homme qui est rentré chez moi.
Ok. Du calme, il faut
répondre à mes questions.
Comment tu t'appelles ?
Manon.
Très bien, Manon, et tu nous appelles d'où ?
De Saint-Ouen, 23 rue de la Rapée.
Et c'est quoi ton commissariat préféré ?
Quoi ?
Ton commissariat préféré, vite, Manon !
Saint-Ouen, du coup.
Super ! Ça, j'aime ! T'es toujours là, Manon ?
Ouais.
Eh ben, salut, c'est en direct du commissariat de Saint-Ouen dans 22 blas. Ouais, vous connaissez le jingle, t'as super bien répondu, Manon, c'était pas évident, et du coup, tu gagnes 2 places pour le bal de la police.
C'est quoi ?
Manon, t'es contente ou pas ?
Ça va, bof.
C'est un sketch du collectif Studio Bagel et qui nous a un petit peu amusés. Manu Dibango, quand vous arrivez du Cameroun à 15 ans en France, la figure de la police, c'est quoi l'image que vous en avez ?
Bah, à 15 ans, t'as pas forcément une figure de police, hein. T'as 15 ans. Et tu te contentes de vivre tes 15 ans avec les amis et la
donc
police.
Donc c'est-à-dire qu'on est un peu con alors.
Ouais, pas complètement d'ailleurs. Mais bon, ça va avec l'âge. Ce sont des tranches d'âge. Et à cette époque-là, il faut pas oublier qu'on sortait de la guerre, que les problèmes n'étaient pas les mêmes. L'abordement. Et puis en plus, on était français. On était encore colonisés. On n'était pas immigrés. Les immigrés, c'était les Polonais, les Copas et tout ça. Les Espagnols, les Portugais, ils étaient immigrés.
Les Arméniens.
Les Italiens. Aznavourien. Et donc, on n'avait pas les mêmes problèmes, puisqu'on était français.
Et l'affaire d'Aulnay, vous l'avez suivi, vous avez entendu ce qui s'est passé. Alors
oui, comme tout un chacun.
Bien sûr, je vais prendre les premières lignes de l'édito du Parisien qui dit « On aimerait trouver des circonstances atténuantes à ces quatre policiers qui ont blessé Théo. On n'en trouve pas parce qu'il n'y en a pas. Rien ne peut justifier une telle brutalité. » C'est un peu le sentiment que tout le monde a en France quand même.
Moi, je dirais seulement une chose, c'est que la glace, ça devrait servir à quelque chose. Il faut que les gens se regardent, quoi. Il me semble qu'ils ne se regardent plus tellement. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé les lunettes pour se voir.
Vous avez le sentiment d'une impunité de la police face à des circonstances comme celle-là ?
Je demande un joker, tu sais.
Attends, vous pouvez tous les jokers,
je vais te dire pourquoi je demande un joker, parce que je suis résident, je ne suis pas français, donc je ne vote pas. Ne votant pas, si je veux faire la politique, je vais au Cameroun.
Ouais.
Voilà, mais je fais la musique.
Ça vous a jamais tenté ?
Non, la preuve. Je préfère faire en fait le son de saxo que celui des Kalachnikov, quoi.
J'espère qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Voilà. Juliette, vous avez trouvé une interview
Une interview de vous où vous disiez « Pour avoir beaucoup voyagé, je peux vous certifier que la France est sans doute le pays le moins raciste des nations occidentales. » Alors sur le coup, ça m'a fait une grosse joie. Et après, j'ai regardé la date de l'article qui c'était en 2000. Donc il y a 17 ans, est-ce que vous avez changé
d'avis ? Non, mais il faut relativiser. Quand on voyage, on se rend compte des inconvénients et des avantages. C'est quand même dans ce pays où il y a le plus grand nombre de mariages mixtes.
Oui, c'est vrai.
Bon, ben voilà.
Et vous trouvez que
ça, ça vous répond, ça?
Ah, ça, ça me paraît excellente réponse.
Vous qui voyagez beaucoup, et peut-être en tant que Belge assimilé comme vous
voilà,
êtes.
Voilà, j'étais dit, d'abord, j'ai commencé la musique chez toi.
Ben oui, mais reviens quand tu veux. Hein.
Je ne suis pas interdit. Hein.
J'espère bien, ouais. T'es même bienvenu. Mais vous n'avez pas l'impression que le français, justement, il croit de lui qu'il est raciste, il croit de lui. Enfin, le français a toujours tendance à se juger durement.
Tous les pays, c'est pareil. Mmh. Tu vas au Cameroun, tu as les mêmes problèmes. Tu vas
dans ils sont racistes, tous les pays.
Ben, entre nous, ouais, hein, les ethnies, je peux te garantir que c'est pire, hein, les ethnies, les unes des autres.
Le problème, donc, c'est l'être humain, en fait.
Ben, voilà, c'est. Non.
C'est une saloperie.
Le problème, c'est le bon Dieu.
Ah merde.
À lui, il faut poser les questions. Pourquoi il a fait plusieurs couleurs? Il n'avait qu'à faire une seule couleur.
Mais pour voir si on était
malin. Alors, pour une seule couleur, c'est embêtant parce que tu ne peux pas peindre blanc sur blanc, noir sur noir. Il faut du relief.
C'est vrai.
Bon, une vie où il n'y a pas de relief, comment ça se passe? C'est tout.
Mais comment, du coup,
le restant, c'est du blabla. Hein.
Comment on peut le contacter, cet homme-là, alors, du coup?
Je sais pas quel 3615, hein.
On va essayer avec la musique, parce que c'est peut-être la bonne façon de contacter Dieu, André Manoukian.
Mais oui, surtout que les dieux de la musique sont définitivement africains pour tous les musiciens. Alors, je vais vous parler ici de la fascination des Afro-Américains à la recherche de leurs racines. Je me suis baladé un petit peu avec mon ami Tété, on avait une émission.
Ouais, j'avais vu t'avais fait une série,
exactement, ça s'appelait Tété ou Dédé. On était à Dakar et puis il y avait un immense festival et là on est tombé sur des Afro-Américains, donc des Américains qui étaient à la recherche de leurs racines et qui se faisaient des tests ADN. Alors ça cartonne aux États-Unis en ce moment. Un petit échantillon de salive sur un coton-tige, on l'envoie. Et là on était avec l'acteur qui jouait dans Prison Break et qui était à Dakar parce qu'il nous disait dans son ADN, il a découvert qu'il avait des ancêtres sénégalais mais aussi des ancêtres écossais. Ça l'emmerdait un petit peu. Voilà. Alors du coup, ça pose question. La question qu'on se pose, c'est comment les Afro-Américains qui ont été aux États-Unis ont perdu en deux générations le sens de leurs racines, de leur pays, de leur langue. Tout a été complètement éradiqué, alors que les mêmes Africains qui sont à 100 km au sud, à Cuba ou dans toute l'Amérique du Sud, conservent leur langue, le Yoruba, conservent leur rite et conservent leur musique. Je vous ai déjà fait cet exposé ici, je pense, c'est parce que certains se font christianiser par les protestants, donc
Voilà, j'allais te le dire.
Et à ce moment-là, on n'a plus de polythéisme.
Surveillez-le. Hein.
Les autres s'étant fait christianiser par les catholiques, les Africains ont posé sur chaque saint catholique toute leur divinité et finalement ont pu conserver leur mémoire. Alors, cette fascination des racines, elle est aussi la fascination de tous les jazzmen américains. Duke Ellington a été à Addis Abeba rencontrer les musiciens. Il a été absolument fabuleux. Fasciné. Et fabuleux comme d'habitude, c'est le premier qui, dans les années 30, va réintroduire dans son jazz la jungle, ce qu'on appelle le jazz jungle, c'est-à-dire tout d'un coup des rythmes africains et qui va renouer directement avec ses racines. En 74, il faut que je vous parle d'un concert fabuleux qui a lieu en marge du match de boxe mythique organisé par un grand, comment on l'appelait,
Mobutu.
Don King.
J'y étais.
Vous y étiez, Manu? Ouais. J'arrête de parler, c'est vous qui me prenez. Non.
Je te laisse parler parce que tu parles bien.
Vous y avez joué aussi?
Protestant catholique, oui. Voilà. Je jouais avec Fanny All-Star à l'époque.
D'accord.
Le latino, quoi.
Alors donc, ce match de boxe entre Cassius Clay, Mohamed Ali plutôt, et George Foreman, contre toute attente, c'est Mohamed Ali. Enfin, je ne vais pas vous raconter le match de boxe qui est assez fascinant. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que toute l'Afrique va découvrir ce funk et va avoir envie de s'électrifier. Je parle souvent de contrôle, Manu. Un an auparavant, en 1973, naît un certain Lionel Loueke, guitariste béninois. Ouais. Il va faire ses études à Abidjan, il obtient une bourse. Comme il est bon, il a aussi une bourse pour aller à Paris, à l'American School. Comme il est bon, il a aussi une bourse pour aller à la Berklee School of Music à Boston. Et
le dernier truc le plus difficile, c'est une école qui s'appelle le Thelonious Monk Institute à New York. Et là, il faut faire une audition, on prend les meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs. Dans le jury, il y a Herbie Hancock et il y a Wayne Shorter, qui sont deux musiciens. Hein, je ne veux pas vous les présenter ici. Si, Alex, vous connaissez
non,
pas.
Non, je connais.
Mais ce n'est pas grave.
Si, le seigneur.
Et il fallait jouer un standard, Footprints. Et là, Lionel Louéquet me dit, je leur ai demandé si je pouvais faire une introduction. Ils ont dit, bien sûr, faites une introduction. Alors, il me dit, j'ai mis du papier à cigarette dans ma guitare et j'ai joué ma guitare comme une sans A. Et là, il me regarde, il me dit, je les ai maraboutés. Toujours est-il qu'à la fin de cette audition, voilà Wayne Shorter qui se lève et qui dit, cet homme, c'est mon frère, c'est lui que je cherchais. Herbie Hancock qui dit, il est hors de question qu'il fasse cette école, je l'embauche immédiatement dans mon groupe. Le directeur se lève, de l'école se lève et dit, il sera ni à toi, ni à toi, il est à moi et c'est moi qui vais lui payer son école. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient trouvé le chaînon manquant entre la musique africaine pure et la dialectique du jazz, qui est une technique quand même assez balèze. Alors ce chaînon manquant, cette espèce de mariage qu'il cherchait, eh bien finalement notre invité, le premier, l'a réalisé à l'insu de son plein gré. Pourquoi ?
Évidemment.
Et voilà, vous allez, racontez-vous, parce qu'il y a un moment donné, The King of Pop lui-même, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre un sample, il ne demande pas vraiment la permission à Manu Dibango, et ça va se terminer bien, on va dire.
Il y a comment des arrangeurs, puisque c'est Quincy Jones qui a arrangé.
On est en train de me dire qu'il s'est fait piller par Quincy Jones. Il y a quand même toujours ce putain de rapport colonial, mais on écoute l'original de l'original, les gars, sur France Inter, aujourd'hui, Manu Dibango, Soul Makossa, Reggae Makossa, s'il vous plaît. Merci, maestro.
Reggae man.
Makossa au reggae.
Reggae Makossa, la version légendaire, Manu, elle est enregistrée avec Sly Dunbar et Robbie Shakespeare, basse batterie, la rythmique légendaire du reggae, les musiciens de Marley qui ont joué aussi avec Gainsbourg.
Tout le monde, pratiquement.
Et puis, les cuivres sont faits à New York et c'est les Breaker Brothers. Vous prenez les meilleurs des meilleurs, Manu.
Ben, j'avais l'occasion, j'en ai profité parce que bon, quand tu as dans un rêve magnifique, autant qu'à faire, vaut mieux qu'ils finissent bien. Non, parce que Gainsbourg venait de finir la Marseillaise, là, et tout ça.
C'était son fameux album.
Voilà, Ricky, dans ce studio-là, Dynamic Sound, qui n'était pas loin, d'ailleurs, de chez Bob Marley. Et moi, j'ai profité, le producteur m'a amené dans le même studio. Il a voulu une certaine rencontre, un Africain vivant en Europe, en France, rencontrant les Jamaïcains. Qu'est-ce que ça peut faire? Eh ben, j'ai hérité un peu des odeurs, si tu veux, je peux parler, de la Jamaïque et de Gainsbourg. C'était les mêmes musiciens, c'était le même studio, c'était le même technicien. Par contre, les cuivres, les violons et tout ça, et les voix, c'était fait à New York et le mixage a été fait à Londres.
Voilà, la légende Manu Dibango avec les meilleurs musiciens.
Et on retrouve dans le coffret 4 CD, Merci, Thank You, volume 1. Alors vous, vous avez comme pote Bob Marley et Serge Gainsbourg. Et ben moi, je connais Guillaume Meurice, personnellement.
C'est un autre style.
Il fait ce qu'on peut. Mais il est pas mauvais dans son genre. Lui non
je
plus.
Bois moins.
Oui, voilà.
Je vais vous parler de la police aujourd'hui et de l'affaire Théo, évidemment. Alors la police des polices, donc ce qu'on appelle l'IGPN, semble avoir conclu à un accident. On l'a appris ce matin. Et d'ailleurs, on le redit aux jeunes, hein, arrêtez de vous asseoir sur des matraques. Non mais c'est pénible. Alors Théo risque d'être mis en examen pour dégradation de biens publics, mais malgré tout, je souhaiterais quand même aujourd'hui apaiser les tensions, parce que je pense qu'il y a un manque de compréhension, tout simplement, entre d'un côté la police française et de l'autre côté la jeunesse en particulier, notamment quand ils disent « nique la police », voilà, je rappelle, c'est une métaphore. Voilà, non mais je le dis aux policiers. Pareil, quand on dit « police de proximité », attention, des fois c'est trop près. Voilà, il y a des nuances, on est là pour se comprendre, apaisons les choses. Tous les policiers ne sont pas à mettre dans le même sac. Il y en a des biens, hein, comme on dit. Ça me coûte de dire ça, mais je suis là pour apaiser aujourd'hui. Et je suis allé à la rencontre des Français ce matin dans un souci de retrouver la paix sociale. Alors, première tentative.
Et pour moi, si le gars il avait rien à se reprocher, il n'aurait pas été mis par terre. Hein ?
Ah ouais ?
Ben bien sûr. Pourquoi il a été mis par terre ?
Donc il est forcément coupable s'il a été mis par terre ?
Pour moi, il a des choses à se reprocher.
Comment vous savez ça ?
Comment je sais ça ? Ben, pourquoi les flics, ils l'ont ceinturé ?
Ben, je sais pas, mais vous avez l'air de savoir, du coup.
Non, mais moi, je dis ce que je pense, quoi.
Mais vous avez bien raison, jeune homme, et ça m'intéresse beaucoup, d'ailleurs. C'est vrai, après tout, si Théo a été plaqué au sol, c'est qu'il avait fait quelque chose. Ben, déjà, il est noir. Hein, et ça, on le sait, c'est une première provocation. Hein, c'est pas à Monsieur Dibango que je vais l'apprendre, hein, qui nous agresse avec sa couleur de peau depuis le début. Hein, on sait que André va régulièrement au Point Soleil, hein, dans un but hostile également. Voilà, heureusement qu'il y a Clara, hein, dont le grain de peau ferait passer un cachet d'aspirine pour la compagnie créole. Mais bon, sinon, cette émission, ça, c'est n'importe quoi. Alors, comme ce que pense ce jeune homme est tout de même très intéressant, j'ai poursuivi la discussion.
Faut arrêter le délire, faut arrêter. Comment on peut croire qu'un flic il rentre une matraque dans les fesses d'un mec? Moi, j'y crois pas une seconde.
Les médecins pas. Et les enquêteurs ont dit ça, en tout cas.
J'y crois pas une seconde, là. Si c'est avéré, ben
là... Parce que là, c'est avéré. Le médecin, il a confirmé. Ben si, il faut regarder.
Le médecin, il est dans le coup avec... il est dans le coup avec le gouvernement et... Non.
Ah bon ?
Le médecin, ben, à mon avis, faut arrêter.
C'est-à-dire, il est dans le coup avec le gouvernement?
Mais... Pour couvrir, pour apaiser le truc.
Ah, pas con. Stratégie du gouvernement. Tiens, on va faire croire qu'il y a un jeune qui s'est fait violer par des flics. Ça va apaiser le truc. Alors, c'est audacieux, hein, comme stratégie. Et d'ailleurs, ça marche pas des masses, hein, pour l'instant. Mais continuons à apaiser et à chercher des raisons, hein, des explications à cette agression barbare. J'en ai peut-être trouvé une. L'oisiveté des jeunes.
En fait, le vrai problème, il est là. Si tous ces jeunes n'étaient pas oisifs toute la journée, le soir,
ah ouais, ils cherchent pas de travail,
s'ils étaient occupés, il n'y aurait pas ces violences et la police ne serait pas amenée à réagir de cette façon-là.
Alors là, vous parlez des jeunes, pas des policiers.
Oui, là, je parle. Oui, mais c'est lié. Alors, je sais que tout ça, c'est une banalité épouvantable, mais c'est la vérité.
Oui, cette affaire est essentiellement un problème de jeunes qui se promènent. Et c'est vrai que ça agace les policiers. Hein. On sait qu'ils n'aiment pas deux choses, les policiers, le bécherel et la promenade. Hein. Pas tous, évidemment, pas d'amalgame, attention, mais certains, oui, parce que les policiers bossent énormément et ce pourrait être une des raisons de l'agression pour ce même monsieur.
J'imagine que c'est possible, oui, si effectivement effectivement, tout ce qu'on raconte, que des gens débordés, qui travaillent tout le temps.
Mais vous-même, quand vous êtes débordé, est-ce que vous introduisez des choses dans l'anus des gens?
Non, moi je suis quelqu'un qui essaie de rester calme.
Oui, mais je préfère poser la question quand même, parce qu'il ne faut pas que ça devienne une mode, ce truc, quand même. Hein, parce que je vois Alex, des fois, il bosse beaucoup. S'il craque, bon, j'ai pas tellement envie de me retrouver avec une brève dans le fondement. Non, mais c'est vrai, non, ça serait gênant. Hein, je tiens avant tout à... Oui, allez-y, Manu, allez-y.
Ce serait bien, mais c'est un rêve, bien entendu, qu'il y ait une journée où on change tous de couleur. Chacun prend la couleur de l'autre pour voir comment ça marche.
C'est pas bête. Techniquement, ça va être compliqué, Manu, je vous le dis.
Je suis d'accord avec toi, mais c'est un rêve.
Il y a un film, John Travolta qui s'appelle White Man.
Oui, je connais, mais j'aimerais que... Enfin, bon...
Mais métissons-nous déjà, commençons à faire l'amour avec des personnes de couleur opposée. André a déjà commencé d'ailleurs le métissage. Alors continuons quand même avec l'argument du burn-out, parce qu'il revient souvent, par exemple également chez cette dame.
Je pense que c'est un manque de respect de la police, des horaires très lourds, beaucoup de travail, et je pense que je peux tout à fait comprendre, et je garde tout à fait ma confiance dans la police française.
Est-ce que vous les comprenez ou est-ce que vous les excusez?
Je les excuse.
Ah, vous les excusez carrément.
Ouais.
Donc vous plaideriez la relaxe pour ce policier.
Oui.
Ah ouais?
Ouais,
ouais, bah ça va, on est là pour apaiser, c'est cool, voilà. D'ailleurs, il faut se rappeler, est-ce qu'on n'a pas été trop injuste avec Guy Georges également, qui bossait énormément, hein. C'est un mec qui était un fou de boulot. Ils auraient pu plaider le burn-out à l'époque, hein. Ils n'y ont pas pensé, mais c'était une thèse, quoi. Hein. Voilà, hein. Ou la thèse de l'accident. D'ailleurs, continuons avec cette thèse.
Oh, c'est un incident, c'est une erreur, c'est tout ce qu'on veut. Bon, c'est une anomalie dans la police.
Une matraque dans l'anus insérée de 10 cm, c'est un accident?
Bon, on est pris dans une espèce d'ambiance, on se défend comme on peut, on se défend, la meilleure défense c'est l'attaque.
Eh ben oui, on veut se défendre, on attaque, c'est classique. 10 centimètres, Manu, il faut vous faire visuellement. Non mais c'est vrai, la défense et l'attaque c'est très connu. Hein, c'est vrai, moi je suis pareil, moi je suis végétarien, j'attaque à coup de tofu. Bon, les flics c'est à coup de tonfa, vous voyez, c'est pareil quasi. Hein. Puis d'abord, on pose beaucoup trop de questions sur la police.
Il ne faut pas parler de la police en ce moment.
Ah bon?
Oui, c'est une mauvaise question, parce qu'on profite de l'incident d'Aulnay-sous-Bois pour questionner. C'est pas le moment de questionner la police.
Non, mais moi, je savais pas qu'il fallait pas parler de la police en ce moment. Je croyais que c'était l'inverse.
Non.
Bon, bah désolé, j'étais pas au courant. Et ben, je vais m'arrêter là. Voilà, je suis désolé pour Théo, pour la famille d'Adama Traoré, de Rémi Fraisse, enfin de toutes et de toutes les autres. Bref, pour toutes les familles les victimes et de la violence subventionnée. Quoi.
Mais merci, Guillaume.
Je vous en prie, je savais pas que j'avais pas le droit d'en parler.
Dire quand même que vous les avez trouvés facilement ou pas aujourd'hui?
Oui, un petit peu trop facilement.
D'accord.
Ouf.
Une fois de plus.
Ouais.
Eh bien, sujet 2, la une de Libé aujourd'hui. Fin du travail, point d'interrogation, les caissières en première ligne. Car Amazon aimerait lancer des supermarchés sans personnel. Vous rentrez, vous prenez, vous sortez, vous êtes débité. Et donc voilà, certains moments de vie resteront à jamais les souvenirs du passé, comme celui-ci.
Ah voilà, c'est bon, on a la carte du magasin là.
Non, ça va pas être possible.
Mais pourquoi?
Parce que c'est une caisse moins de 10 articles et vous avez 11 articles.
Eh ben on s'en fout, on enlève le déo et voilà, ça fait 10 articles.
C'est pas possible parce que c'est une caisse moins de 10 articles et vous avez 10 articles.
Et si j'enlève la courgette et que je vous la fous dans le cul, ça marche?
On reste dans le thème. Hein.
Sans transition, bien évidemment. C'était le bal macho. L'idée que la consommation, la grande consommation, c'est-à-dire aller au supermarché, aller acheter un t-shirt, soit déshumanisée. Vous en pensez quoi, Manu Dibango?
Il faut remonter très loin, je veux dire, quand au début, quand les chevaux vapeurs ont remplacé les chevaux, les cochers n'étaient pas contents.
Et des chevaux au chômage aussi.
Voilà. Et c'était dans le début de la pollution d'ailleurs, charbon, tout ça. Donc c'est pas une première.
Et vous pensez
à chaque
que,
fois qu'on trouve voilà, quelque chose...
L'humanité s'adapte.
Voilà, c'est ça l'histoire. On n'en fait pas une tonne parce que c'est triste. Mais ce triste-là, il existe. Il faut le multiplier par les époques qu'on a vécues jusqu'à présent. À chaque fois que les scientifiques trouvent quelque chose, il faut s'adapter à ce truc-là. Maintenant, il va avoir des voitures sans chauffeur.
La modernité,
dans les exemples que vous citez, Maldi Bango, on remplace une chose par une autre, mais on garde un humain quelque part. Là, ce qui est un peu réfrigérant, c'est que là, on remplace quelque chose par autre chose, et en enlevant l'humain.
Non, mais l'humain, il va peut-être profiter pour se cultiver, peut-être.
On adorerait, mais...
Donc, il faut... Oui, mais tout va ensemble. Franchement, jusqu'à présent, il faut quand même un peu faire confiance à l'être humain malgré toutes les épreuves qu'on a, parce qu'on a toujours survécu à toutes ces époques. On arrive maintenant à la fin d'un cycle, ça c'est sûr. Bon, beaucoup de gens, personne ne va à l'église, mais on manifeste dehors.
Ouais. Et le rapport au travail doit changer.
C'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va toujours trouver une façon de s'adapter. D'abord, ça va faire que les gens, parce que en fait, c'est malheureux à dire quoi. Mais quand tu travailles dans un magasin pour ne faire que ramasser des données, tout ça, dans un pays qui est le cinquième du monde, là aussi, on peut se poser la question comment ça se passe.
Bien évidemment.
Voilà, donc c'est des choses qu'il faut prendre très au sérieux, mais ce sont des choses qui existent à chaque fois qu'on change de là maintenant c'est sûr que la disquette il faut la changer
Ah oui, mais vous voyez les choses, la robotisation en fait délivre l'être humain en fait.
Ben les musiciens sont déjà robotisés mais non, mais je veux dire que maintenant on écoute pratiquement plus la musique, on consomme la musique. Pourquoi la batterie, là, il n'y a qu'à changer le tempo, 180, 120, et tout le monde croit qu'il danse. En réalité, on ne danse même plus, on saute. Donc, voilà.
Mais écoutez, gros défi en tout cas pour les décennies à venir. Clara Dupont-Menot, la littérature a sans doute des solutions.
Ben oui, on parlait culture justement, Manu Dibango, ça n'est pas un gros mot. Alors l'actualité, figurez-vous, c'est la course à la présidentielle et je trouve moi que c'est le meilleur roman du monde. Parce que ça nous tient en haleine, ça nous révèle des chapitres, on a absolument envie de tourner la page, on guette les péripéties suivantes. De toute façon, je pense qu'il y a un moment, Manu Dibango, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a un moment dans la vie, il faut prendre les choses du point de vue littéraire, sinon on pleure.
Ben heureusement qu'il y a ça.
Et ben par exemple, avez-vous remarqué que tous les épisodes politiques que nous traversons en ce moment en France correspondent finalement à un titre de roman ? Par exemple, les Républicains, en ce moment, moi je suis sûre qu'ils lisent Les Illusions Perdues de Balzac, forcément. François Fillon doit lire Comment ma femme m'a rendu fou, c'est un vrai livre d'un auteur néerlandais, en plus c'est très drôle, c'est paru chez De Noël, de Dimitri Verhulst. Mélenchon dévore certainement Le Général dans son labyrinthe de Garcia Marquez et Benoît Hamon, Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, qui est un romancier du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et pour les autres, me demanderez-vous, Manu Dibango, et vous avez raison, François Bayrou lit La lenteur de Kundera, parce que on l'attend toujours. Juppé, il est plongé dans Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable de Romain Gary. Et Manuel Valls, évidemment, corne La porte étroite d'André Gide, en sachant attention à la plainte. Bref, à la politique, vous le voyez, c'est le livre de la jungle. Et là, je vous entends penser, Manu Dibango et Emmanuel Macron. Eh ben, avez raison, quel livre collerait à sa destinée ?
Gus, je pense.
Peut-être, absolument, Gus, qui est une bande dessinée. Ah. Bravo, Guillaume Meurice.
Ah, non, mais je disais ça comme ça.
Oui, heureusement que vous n'avez pas vu la BD qui est posée sur le plateau. Manu Dibango, je crois que vous aimez bien la BD.
Oui, oui, mais lui, il me fait penser à D'Artagnan, d'ailleurs. Enfin, c'est quelqu'un qui...
Oui, mais là, je parlais de la BD, en fait.
Oui, oui.
Vous avez grandi
l'imagination,
avec la BD.
L'imagination, l'imaginaire, la BD te la donne. Et puis tu as attiré par l'imaginaire. À suivre. Il y a toujours les épisodes. Quand tu arrives à la fin d'un truc, ben non, c'est la semaine prochaine que tu auras la fin. Donc en même temps, c'est l'imagination, quoi.
Alors celle-là, elle s'appelle Gus, hein, Guillaume Meurice a fait le teaser. Le quatrième tome vient de sortir, mais je précise aux auditeurs, on peut la lire complètement indépendamment des autres. Alors déjà cet album, il faut que vous le lisiez, Manu Dibango, parce que c'est à lui seul un éloge de l'attente, parce que ça fait 8 ans qu'on l'attend. Le précédent tome 3, il date d'il y a 8 ans. Et dans nos sociétés ultra rapides, où on a perdu l'habitude de piétiner, de désirer, sauf vous Alex, mais le commun des mortels en général, comble son attente d'un seul clic. Et bien pas Christophe Blin, lui qui prend son temps. Et pour le situer, c'est celui qui avait fait la bande dessinée Quai d'Orsay en 2010, qui a été adapté au cinéma par Bertrand Trévernier. Il a été sacré meilleur auteur au Festival d'Angoulême. En gros, il n'a plus rien à prouver et c'est souvent là que se révèle le meilleur d'un homme. Voici donc cet album. Il est situé au 19e siècle et ça raconte un cow-boy, un peu comme Emmanuel Macron en fait, je vous signale.
Il y a du cow-boy.
Un cow-boy qui défie le système tout en lui appartenant. En fait, il braque des banques tout en vivant incognito comme un bourgeois. Il s'appelle Clem Denner, c'est son nom. Il a une femme, il a une adorable petite fille, il a une immense quincaillerie dans San Francisco. Mais dès qu'il peut, il enfourche un cheval, il met une cape et il va dévaliser les banques de l'arrière-pays. En plus, il adore l'argent, c'est sa vraie faiblesse, et il déteste perdre. Alors Emmanuel Macron, si vous m'écoutez, n'y voyez rien de personnel, je vous souhaite le meilleur. Mais il se trouve
non,
que là...
Non, pas du tout.
Je parle d'art.
Ah pardon.
Je parle d'art. Ah, oui, pour, mais pourquoi Christophe Blain est un génie? Parce que comme tous les génies, il prend appui sur une trame pour s'élancer vers une voûte d'autres sujets. N'oubliez jamais que Madame Bovary de Flaubert, je le dis souvent, c'est jamais que l'histoire d'une femme, pardonnez-moi, qui s'emmerde. Que Marcel Proust, il part de son heure de coucher dont tout le monde se fout a priori. Et pourtant, ils ont marqué l'histoire. Pourquoi? Parce qu'ils partent à chaque fois d'une expérience individuel et ils ouvrent vers l'universel. Ben Christophe Blain, il fait pareil. Son Clem des nerfs, là, son cow-boy, il essaie de renoncer au crime et il n'y arrive pas, sauf une fois, c'est quand sa petite fille lui saute dans les bras. Cette fois, à chaque fois, il se croit guéri. Et vous voyez que Blain se sert de cette histoire de cow-boy à double visage pour interroger finalement les notions de paternité, les notions d'appât du gain et surtout la figure du méchant. C'est quoi un méchant? Est-ce que c'est un homme qui vole pour assurer une belle vie à ses enfants? Est-ce que ça, c'est encore un méchant? Est-ce qu'un homme qui tue pour éviter que les siens ne soient tués, c'est encore un méchant? À quel moment le vice peut garantir une certaine forme d'innocence? Voilà, vous avez 4 heures. Mais mine de rien, voilà les questions que soulève ce cow-boy. J'ajoute quand même que l'album, en plus, est très drôle, ce qui parfait le tableau. Et je vous donne les références. Gus, tome 4 de Christophe Blain, est paru chez Dargo.
Merci, Clara Dupont-Mano.
Il n'y a pas de mal.
Et vite, enfonce vers ce troisième sujet, parce que je ne veux pas le rater. Charlie n'est pas là, on va parler de foot. Et on va parler de foot africain. Les Lions indomptables, ce maillot vert qui a fait se soulever tout un pays dimanche dernier. Le Cameroun a gagné la CAN. L'entraîneur était belge. Ce Cameroun que tout le monde a découvert en 1990 à la Coupe du Monde souvenir.
Dis que le lion est indomptable, dis que le football est.
Abega, en dribble. Abega, toujours. Abega, Mila, Mila, Abega.
À un moment donné, le football, c'est de l'art.
Qui dit ça? Manu Dibango, évidemment. Je vous ai retrouvé dans un truc sur les 60 ans de Roger Milla. Ouais. Une petite vidéo et vous parlez Roger Milla, donc le but. Je sais pas si vous en souvenez de ce fameux but contre la Colombie. Souviens. Et donc, vous étiez au Gabon. Dimanche dernier.
Exact.
2-1 contre les Pharaons.
2-1. Alors, c'est bien parce que, en fait, là, pareil, personne ne comptait sur cette équipe parce que ça faisait 15 ans quand même où il se passait rien au Cameroun niveau football. Mais on aurait dû être en alerte au début, à la fin de l'année, parce que les filles, le football féminin, il a brillé. C'est là où on a recommencé à parler des Lions du Cameroun.
Il y a des Lions aussi.
Oui, oui, oui. Ah, vous savez, parce qu'il y a un championnat. Il y a un championnat. À propos, d'ailleurs, mon histoire avec le football, c'est pas difficile. Seulement que ça n'aurait pas existé sans la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football. Mm. Donc, on appelle ça CAN maintenant. Oui. Mais avant, dans les années 70, on appelait ça la Coupe des Nations.
Oui. Alors, j'ai entendu un Camerounais qui disait en 90, on avait des problèmes de guerre civile, tout ça, et le football, et justement la victoire des Lions, nous aidait et a fait qu'en fait, le pays n'a pas tombé là-dedans.
Bis repetita, là.
Ici, maintenant?
En ce moment, il y a un problème.
À ce point-là, parce le foot?
Eh ben non, parce qu'on est, comment on appelle ça, bilingue, on est bilingue. Mmh, hein,
je connais français. Ça, oui.
Oh, toi, tu le connais bien, hein. Des fois, il y a une guerre civile entre les Flamands et les Wallons. Là, au Cameroun, il y a les anglophones et les francophones. Ça date donc de la Première Guerre mondiale. Mais il y a énormément de tensions en ce moment. Et le président qui est là, il a la chance parce que maintenant, on vient de regagner.
On est
donc,
tranquille.
Donc, voilà, l'ardoise est en train d'être effacée.
La fête.
Quelque part, la fête pour tout le monde.
Eh ben, génial. Manu Dibango, à la fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. Ouais. Et on s'est dit, justement, il y a beaucoup d'entraîneurs européens qui vont entraîner les équipes africaines. On s'est dit, pourquoi pas Manu Dibango qui entraînerait l'équipe de France? Alors, le texte est devant vous. On est...
Ah.
Bon. Hein, ouais, alors, sortez les lunettes, attention. Hein,
voilà, on va s'équiper. Tu vois le poids de l'âge, mon cher.
Oh, votre pudeur d'égal. On est parti.
Pas
pour
si
ce sketch.
Que ça. Attends, excuse-moi.
Ah, voilà, les lunettes sont chaussées.
Alors.
Guillaume Meurice, André Manoukian et moi-même, on est joueurs de l'équipe de France et vous êtes le coach. Avec l'Afrique, ça se passe autrement. Silence. Le coach, il va parler.
Ah, bonjour à tous. Ça me fait bien plaisir d'être votre nouvel entraîneur.
Parce qu'on est une bonne équipe, hein, c'est ça, coach?
Oui, surtout parce qu'un Africain qui donne des ordres à des Français, genre de belle revanche.
Oh, pardon, je suis en retard. Bonjour, désolé pour mon retard, coach.
Oh, pas grave, nos stress, tranquille. Les Blancs, on démontre, nous avons le temps.
Enfin, en tout cas, coach, c'est sympa de votre part de le prendre comme ça, parce que Didier Deschamps, quand on est en retard, il nous force à écouter du Adamo pendant des heures.
Bon. Par contre, les gars, il y a un truc qui me chiffonne.
Non, c'est pas moi. Promis, coach, j'ai pas tourné de sex tape, je vous jure.
Alors, si, pendant que tu jures, moi, je dis, justement, je veux qu'on mette toutes les chances de notre côté.
Vous avez loupé une page. Attention, Manu, là. Loupé une page.
T'as des coachs.
Mais ça fait partie de l'ambiance. Page, hein. alors, je m'en fiche, dis donc. Et tu fais ce que tu veux avec ton petit oiseau, faut bien vivre.
Ça veut dire qu'on peut le rappeler Zaya, coach?
Oui, si tu veux. Non, le truc qui me chiffonne, c'est l'emblème de votre équipe. D'où vient... on a un lion, dis donc. Et vous, c'est quoi? Un poulet?
Non, coach.
Sérieusement?
Coach, c'est pas un poulet, c'est un coq. C'est quoi le problème?
Chez nous, le coq, c'est pas un emblème, c'est un plat. Et en plus, principal.
Coach, nous, on l'aime, notre coq.
Je vois bien, au point que Pogba essaye de lui ressembler avec sa crête.
C'est pas gentil de se moquer, coach.
Pourquoi Pogba, il a une voix de fille.
C'est parce que Juliette voulait absolument jouer dans le sketch. Continuez.
Coach, c'est quoi la stratégie pour le match?
Alors, on revient donc là. Voilà. Justement, je vais qu'on mette toutes les chances de notre côté.
Oui, on va se les mettre, les chances de notre côté.
Hey. Non.
C'est bon, Manu Dibongo, vous êtes accepté, le nouveau sélectionneur. Didier Deschamps, si tu nous écoutes, c'est terminé. On parle plus de toi. Merci à vous, Manu Dibongo, d'avoir passé cette émission avec nous. Je rappelle, vous allez dans le 54, dans le 81, dans le 59, dans le 72 et en Éthiopie le 13 mars. Je suis très content de le rappeler. Et votre... quadruple album, merci, thank you, 80 titres des années 60 à 80. Merci André, merci Guillaume, merci beaucoup Juliette, merci Clara. Et demain, on se retrouve avec Elena Noguera.
Wow. Tu t'appelles comment?
On est Yaya.
Et quel âge?
19 ans.
Ah ouais, 19 ans plus TVA, hein.